Bienvenue sur le mug, Magnatech 111.
On est vendredi 6 mars 2020.
2020.
Et si ça commence,
on démarre
maintenant.
Tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à tous.
Salut.
Et effectivement, bonsoir, oui, il y en a qui dorment bien la nuit, hein, Quentin. Bienvenue à tous, vous êtes donc sur le Mug Nowtech, édition spéciale du vendredi, on est sur la chaîne principale tous ensemble. Et aujourd'hui, chose pas commune, nous n'avons pas un invité, mais carrément deux invités se tapent l'incruste dès le départ. Donc c'est le chaos complet, mais on va tâcher de mettre de l'ordre dans tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Mug Nowtech, c'est une revue de presse de la technologie tous les matins. Du lundi au jeudi, c'est sur la chaîne secondaire Nowtech Live, donc abonnez-vous. Mais ce matin, on se retrouve tous sur la chaîne principale. Et nous avons donc Quentin de la chaîne Quentin. Et nous avons Mathieu de la chaîne Restez Connecté.
Merci.
Et comme vous avez pu le remarquer, normalement, on a un cadrage beaucoup plus serré.
Voilà.
Mais si on faisait ce cadrage-là, on n'avait pas Mathieu.
Voilà.
Donc, nous passons à un cadrage grand angle. Donc, vous voyez un peu les secrets du décor aujourd'hui. Ça va être une émission un peu spéciale. Normalement, quand j'ai un invité, bah, il reste dans le canapé pendant que je fais les news et puis il intervient pour un entre quatre œufs. Aujourd'hui, on va pas du tout faire ça parce que Guillaume hier a fait déjà un récap un peu des news de la semaine. Donc moi, j'ai sélectionné un certain nombre de news ce matin et on va les commenter ensemble et on va les commenter avec la chatroom. Donc on a un mélange de tartines, entre quatre œufs et du kawa.
Eh ben c'est parfait.
Oh, tout mélangé, c'est le petit-déj que tu prends tout ensemble.
Ah, le petit-déj américain, quoi.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On lance les trois génériques
les
à la suite
d'un coup, hein.
D'un coup, ça va pas le faire. Je peux pas, avec Stream Deck, je peux pas. Hein, qu'est-ce qu'on fait, la chatroom? On lance les trois génériques à la suite ou pas? Entre six œufs, oui, c'est un peu ça, effectivement.
Attends, je me fais juste un petit kiff. Merci, Samuel, de nous préciser que tout est à 5 sur 5 au niveau.
Ouais, bah, merci à toute l'équipe.
Toujours rêvé d'avoir un Samuel. Merci beaucoup.
Allez, on va faire les trois génériques à la suite. Donc, on va commencer par le kawa.
Allez.
La tartine. Et entre 4 entre 6 œufs. Voilà. Putain, on aurait dû refaire le générique.
On mettait les petits œufs sur le côté, tu sais.
Ouais,
tu
ouais,
les avais dans
la
pas
boîte.
Mis dedans.
Et on nous dit, il manque Steven. Bah oui, il est puni.
Steven,
il est dans l'avion, là, non?
Steven, il coûte trop cher, maintenant.
En fait, expliquons très rapidement pourquoi vous êtes là. D'abord, bravo à vous de vous être réveillé, parce que c'est un peu le test pour être invité dans le mug. Faut arriver à se réveiller.
Ah,
vous êtes arrivé quand même juste. Hein. J'ai pas eu le temps de faire une vignette avec vos deux têtes, parce qu'ils viennent de franchir la porte, hein, quasiment. Mais quand même, on peut saluer la chatroom. Tonnerre d'applaudissements à Quentin et à Mathieu.
Merci.
De s'être réveillé ce matin et d'avoir pris des risques et d'avoir déréglé Waze pour arriver le plus vite possible.
Ça.
Donc, bravo à vous. Et vous êtes là parce que ce matin, il y a la conférence Oppo.
C'est ça.
Hein, vous allez y être, Steven va y être, tout le monde va y être, sauf moi, en fait. Voilà. Moi, je ne peux pas, parce que j'ai une autre réunion ce matin. Mais bon, voilà. Donc, après le mug, je crois que c'est vers 10h30.
Ouais,
vers 9h45. Live, vers 9h45.
Enfin, non, on doit y être.
Alors,
à 9h45.
Voilà.
Live,
ça commence à 10h30, ouais.
Qu'est-ce qu'ils vont annoncer, Oppo, à votre avis?
Plusieurs
Find
téléphones.
X2.
Ouais.
Non,
bah,
non,
oui.
L'Apple Watch Oppo.
Oui.
C'est une Apple Watch Oppo.
Oh, pas
Oppo.
Oppo, ça balance.
Et peut-être un peu une redite sur les nouveaux Oppo. Alors, j'aime pas dire ce que tu dis. Mais Oppo AirPods.
Ouais. Et vous croyez qu'ils vont faire des sondages, des polls, des poules Oppo? Les poules au pot.
Au pot.
Au pot. Ok, elle est nulle. On va continuer. Bon. Hein. Bon. Alors, premier article de ce matin, messieurs. Yes. Je vous fais l'article. On le commente ensemble avec la chatroom. Et on va commencer par parler de YouTube et du coronavirus. Parce qu'effectivement, c'est quand même la grosse actu. On ne va pas parler du coronavirus directement. Mais on va parler quand même un petit peu des conséquences de nos métiers et puis de ce que vous regardez. Effectivement, YouTube a décidé de supprimer les publicités. Attention, de ne pas bloquer les vidéos qui parlent de coronavirus, mais de les démonétiser. D'ailleurs, nous, on en a fait les frais.
Oui,
tous les mugs où j'avais mis coronavirus dans le hashtag, bim, bim, bim.
Ouais, YouTube envoie un mail, rend l'argent, Jérôme.
C'est exactement. Alors, justement, un petit peu votre avis, parce que c'est vrai qu'on peut avoir deux types de vidéos autour du coronavirus. On a par exemple Dr Nozman ou d'autres qui ont fait des vidéos informatives sur le coronavirus et qui se retrouvent un peu démonétisées de façon inique. Mmh. Mais à côté, il y a aussi tout un tas d'autres YouTubeurs qui ont profité, un peu comme les vendeurs de masques et de lave-mains, coronavirus. Vous trouvez que c'est la bonne solution que YouTube, en gros, parce qu'ils ne vont pas avoir le temps de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises vidéos sur le coronavirus. Vous pensez que c'était la bonne action de YouTube de les démonétiser afin de ne pas encourager des gens qui surferaient sur la panique ou ce genre de choses ?
Vas-y, parle si tu veux.
Non, bah écoute, je sais pas. Je trouve que... Alors, bonne idée, non, c'est jamais une vraie bonne idée parce qu'il y a quand même des créateurs de contenu qui font du contenu sérieux et qui vivent de leur chaîne, donc c'est toujours, même si on sait que les publicités ça reste des fois anecdotique dans le budget de dans
leur, ça dépend de ta chaîne,
voilà, ouais. Ça dépend, mais par exemple pour des petites chaînes émergentes, moi par exemple je parle pour la mienne, de temps en temps on arrive à récupérer un tout petit peu de sous. Alors nous enflammons pas, hein, c'est un peu tout, mais ça permet d'acheter un petit trépied, une lampe chinoise pas chère comme tu nous les présentes, tu vois, c'est le genre de truc qui est un peu un manque à gagner. Après, oui, dans les faits, si on se place de l'autre côté, on comprend un petit peu voilà. J'ai l'impression que c'est un peu un bazooka pour péter une mouche, quoi. Donc ils n'avaient pas le choix et ils se sont dit on va au plus facile.
Ils auraient pu être plus violents et bloquer les vidéos.
Oui, totalement.
Oui. Oui, oui.
Alors, moi, je donne mon avis, après tu donneras le tien. Je pense qu'ils n'auraient pas pu trier, parce qu'une bonne vidéo, ça veut dire quoi ?
C'est hyper subjectif.
Hyper subjectif. Tu peux faire une vidéo informative tout en te disant « je vais profiter de l'effet coronavirus », en mettant un titre un peu sensationnaliste. Mais on le voit, hein, là, je le montre dans cet extrait-là. La vérité sur le coronavirus, complot, 90 malades, voilà. Ce genre de vidéo, il faut éviter en ce moment.
Est-ce que c'est pas ce qu'on voit sur les chaînes d'infos aussi en continu, hein ?
Oui, alors est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie aussi ? Mais justement, YouTube fait ça pour protéger les annonceurs. Ils ont eu tellement de tempête de merde l'année dernière avec des annonceurs. YouTube fait tout pour éviter les scandales en ce moment. Toi, Quentin, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette mesure ?
Je pense que c'est surtout ça, c'est qu'en fait on en entend tellement parler que YouTube se dit on va pas prendre de risques, on démonétise tout, au moins YouTube prend pas le parti pris en fait de ces vidéos, et comme ça il s'assure au moins de...
En fait, il protège surtout ses annonceurs.
C'est ça.
Voilà.
En vrai, ils se disent on prend pas de risques, on supprime pas les vidéos, on les laisse parce que c'est quand même les créateurs qui les ont fait. Il n'empêche, comme ça personne touche les recettes de ce virus, de cette émergence de ce nouveau phénomène, finalement.
On a Yves qui nous dit les chaînes d'infos sont tout de même des vrais journalistes. Il y a des débat.
Entre toi et moi, pour être complètement honnête, moi qui connais un peu le monde du journal, alors je parle de la tech en général, et sans faire de jugement, parce que moi, j'ai un peu été mon cas aussi. T'as des journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Alors, qu'est-ce qu'un vrai journaliste aujourd'hui ?
Et est-ce qu'avoir une carte de presse, c'est un signe de professionnalisme ?
Est-ce que c'est un tampon qui fait foi ?
Ça serait un bon débat. Alors, on ne serait pas que des amis. On fait des bisous à nos amis journalistes, les vrais. On va se fâcher avec personne.
Voilà. Après, j'en profite. Je me fais vraiment un kiff, Jérôme, sur le mug aujourd'hui. Je vais inclure dans cette news une news porn. Ça fait plaisir. Il faut savoir que Pornhub a fait une catégorie coronavirus, tellement il y a de vidéos aussi qui emploient le mot.
Mais
les mecs, ils n'ont que des masques.
Tu sais, c'est ce que je me disais en faisant l'article. Je me disais, dans le porn, il va y avoir une recrudescence de vidéos avec des nanas et des mecs avec des masques et qui se lavent les mains avant de faire fric-frac.
Voilà.
Hein. Surtout, ne vous lavez pas les parties génitales avec ce genre de produit. Hein. C'est le conseil du jour du mug. Hein. C'est pas fait pour et ça ne protège de rien.
Voilà.
Et ce n'est pas un lubrifiant.
Non. Voilà. Vous allez perdre en circonférence, si vous voyez ce que je veux dire.
À éviter. Allez, on passe à l'article suivant, hein, parce que le mug, c'est dynamique le matin, on réveille les gens, c'est comme le café, puis surtout, on en a pas mal. Et ça, c'est une news qui va te faire plaisir, Mathieu.
Ah,
je pense que c'est un de tes fantasmes les plus profonds.
Oh,
on vient de parler de Pornhub, donc tu t'inquiètes un petit peu.
Où est le sopalin, pardon.
Nous avons un article sur un homme qui va faire tourner Android sur un iPhone.
Waouh.
Est-ce que c'est pas un petit peu ton...
Toi
qui es très anti-iPhone, quand même. On peut le dire.
Ouais, c'est ma cible.
C'est son personnage.
C'est-à-dire que c'est mon fond de commerce.
Voilà, c'est son fond de commerce. Il arrive dans n'importe quelle soirée, il dit « j'aime pas les iPhones ».
Voilà, c'est ça.
Il arrive à la boulangerie, « j'aime pas les iPhones ».
Exactement. Une pomme, non, j'en veux pas, merci beaucoup.
Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une société qui s'appelle Corellium, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, en procès avec Apple, parce qu'ils font des choses qui déplaisent à Apple. Et c'est une société qui n'en est pas à son coup d'essai, puisque Android a déjà tourné sur un iPhone. Sur l'iPhone 1, première génération, David Wong, il y a 10 ans, était arrivé à faire tourner Android sur l'iPhone 1. Et c'est là, beau. Ils veulent récidiver. Et en fait, le projet philosophique, on va dire, ou en tout cas leur but, c'est de dire le projet Sandcastle, puisque ça s'appelle comme ça, consiste à s'amuser en construisant quelque chose de nouveau, comme un château de sable, mais à partir de puces de silicium. Et l'idée, c'est d'être contre Apple, qui restreint les utilisateurs d'iPhone à l'intérieur d'un bac à sable, ou une cage dorée, hein, selon le truc. Mais ceux qui possèdent ce matériel devraient pouvoir l'utiliser comme ils le souhaitent. Là où les bacs à sable limitent le matériel des utilisateurs, les châteaux de sable offre en revanche la possibilité de créer quelque chose de nouveau et de merveilleux sans aucune limite de création. Alors, attention, avant de vous enthousiasmer, ça ne va pas marcher sur n'importe quel iPhone, vous vous en doutez bien. En fait, cette première version va exploiter le jailbreak CheckRain dont on avait parlé, qui pour l'instant ne fonctionne que sur les smartphones moins anciens que le 5S et plus récents que le 10. C'est-à-dire que depuis le 10, Apple a mis du hardware empêche ce jailbreak. Et en dessous, ce n'est pas assez puissant. Je schématise, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc en fait, l'idée pour faire tourner Android, c'est d'utiliser ce jailbreak. Ils ont rencontré des problèmes quand même assez énormes. Et quelque chose qui nous intéresse, nous testeurs de smartphones, un des plus gros problèmes sur lesquels ils ont buté, c'est la gestion de la mémoire vive. Et comme le dit l'article, la gestion de la mémoire vive est radicalement différente entre les iPhones et les Android. Ouais. Ce qui explique ce qu'on dit souvent dans nos tests, ne comparez pas la RAM d'un Android avec un iPhone. Là où un iPhone avec 4 gigas de RAM arrive à faire tourner des trucs où il faut 12 gigas de RAM sous Android. Ouais. Donc c'est un des problèmes majeurs qu'ils ont eu. Et j'imagine faire tourner Android sur 4 gigas de RAM d'iPhone, ça devait pas être simple.
C'est sûr.
Alors, si ça vous amuse, et après on va poser la question à nos invités, si ça vous amuse d'essayer, mais je donnerai les précisions, tout est sur projectsandcastle.org. Vous trouverez la version bêta de ce système d'exploitation. Attention, c'est un sandbox, un mécanisme de... Alors oui, le jailbreak comme CheckRain ouvre en gros votre smartphone en deux. Vous l'ouvrez à toutes les saloperies du monde, puisque en fait, vous supprimez le sandbox, et c'est comme ça qu'il s'appelle chez Apple, qui protège votre smartphone contre toutes les agressions, un mécanisme de sécurité informatique. Donc, si vous le faites, faites-le pas avec l'iPhone du boulot, faites-le pas avec l'iPhone de votre mère, de votre père, de Jérôme, enfin voilà.
Et sauvegardez vos données.
Ouais, sauvegardez vos données. Merci beaucoup Clément pour ton super chat. Donc, messieurs, est-ce que vous estimez, un petit peu comme cette société qui s'appelle Corellium, que à partir du moment où on achète du hardware, ça ne se justifie pas qu'une société comme Apple protège l'expérience en fermant. En gros, est-ce que vous pensez que ça serait normal, si j'achète un iPhone, de pouvoir installer ce que je veux dessus?
Bah, achète une machine Linux, hein, j'ai envie de dire.
Un smartphone Linux.
Bah voilà. En général, enfin, quand on achète un smartphone, on achète surtout l'expérience. Et Apple a énormément, et même les téléphones sous Android, genre Samsung, Huawei, misent énormément sur la R&D de leur software pour pouvoir, pour que ça soit optimisé en fait. Ils optimisent le software pour que ça soit pas parfaitement utilisable sur un hardware. Donc le modifier, en fait, ça le rend presque inutilisable. Et puis même, on le voit, à l'époque où même moi je jailbreakais mon iPhone, tu devais le restaurer tous les mois parce qu'en fait t'installes tellement de saloperies que le truc il marche plus, donc t'es obligé de refaire la manipulation pour le remettre à neuf. Et au final, en fait, on vient enlever de l'expérience utilisateur, en fait, tout ce qui va être agréable à utiliser, fluide à utiliser, et ben ça va disparaître. Donc au final, c'est pas la bonne solution, je suppose.
Ouais. Et toi, Mathieu, tu penses qu'on pourrait, on devrait pouvoir installer Android sur un iPhone ?
On devrait avoir le choix. Moi, je suis très partisan de. On devrait avoir le choix.
Donc, on devrait pouvoir installer iOS sur un Android.
Eh ben, tu fais bien. Tu me tires les mots de la bouche parce que je trouve que le projet, il est pas si ambitieux que ça parce que comme en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et comme on connaît la malléabilité, on va dire, d'Android. Moi, tu vois, pour avoir eu plein de téléphones où je mettais des ROM custom sur Android, déjà, tu savais que tu avais des risques de tuer un peu l'expérience et notamment, effectivement, l'autonomie parce que, bah, du coup, les ROM custom, parfois, sont pas très bien optimisés pour tout ce qui est la batterie. Il fallait mettre des kernels pour essayer d'améliorer. Le kernel, c'est le cœur du programme. Bon, bref, je vais pas trop rentrer dans la technique. Mais je trouve que la prouesse, elle aurait été justement de mettre un iOS sur un téléphone Android.
Ouais.
Parce que...
Là, c'est pas un procès que tu te prends d'Apple. Là, c'est des mecs qui débarquent chez toi, tu sais, avec des cagoules noires, avec une petite pomme à la place de la bouche.
Ouais, mais t'as une petite...
Et qui te transforme en purée.
Oui,
peut-être. En compote.
Regarde, il y a une communauté Hackintosh qui existe, qui vivote,
et qui
arrive à s'en sortir. Donc, je comprends pas pourquoi on pourrait pas avoir la même chose avec iOS. Je pense qu'un jour, le sens de l'histoire fait qu'il y aura un mec assez fou pour le faire. Ça marchera peut-être pas très bien, mais en tout cas, l'idée de faire cette preuve m'impressionnerait plus. Parce qu'on vous entend aussi, hein, alors le fantasme du mec qui rêve de voir Android sur un iPhone. Moi, c'est pas du tout mon délire parce que je trouve que les téléphones Android sont quand même plus beaux, mieux réussis. Alors, je parle en termes de...
J'en ai deux, trois de sortir du placard, tu vas vraiment dire s'ils sont plus beaux que des iPhones. Ouais, mais... On pourrait en discuter.
L'avantage, c'est qu'on a une large palette de choix.
Et ah oui, il y en a pour tous les goûts, même les mauvais.
Mais par exemple, tu prends un super beau téléphone comme le Oppo Find X où il n'y a pas de notch,
oh, lui,
il n'y a rien.
Lui, comme il fait de la lèche à Oppo.
Oh là là,
on sent que tu vas à la conférence Oppo, là.
N'hésite pas à m'en mettre un ou deux de côté, ça me fera plaisir. Non, mais tu vois, t'as des superbes téléphones en termes de design ou genre, je sais pas, même un Samsung Galaxy ou autre, et il y en a plein qui disent ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'iOS tourne dessus. Moi, c'est des genres de commentaires que je lis en fait, où les mecs qui te disent ah, ce téléphone il est génial, le seul truc qui va pas, c'est Android. Tu vois, on l'entend souvent dans les commentaires. Donc je pense que
Moi, c'est souvent ce que je dis, hein, sur des téléphones Android. Le hardware est top, voilà, mais le soft ne suit pas.
Mais c'est les marques qui doivent développer et pousser ça à fond, en fait. Ils doivent pas apporter iOS dessus, c'est eux qui doivent créer leur propre truc.
C'est pour ça que moi, je suis partagé. Quelque part, moi, j'ai ce côté-là libéral que le consommateur devrait avoir le choix de faire ce qu'il veut à partir du moment où il a acheté le matériel.
Exactement.
Après, je comprends la position d'Apple de vouloir protéger l'expérience utilisateur, mais ça m'énerve aussi chez Apple d'avoir ces blocages. J'aimerais juste un curseur qui me dise attention, danger, si tu appuies sur ce bouton, tu es libre mais tu en assumeras les conséquences. J'ai même envie de dire à l'extrême que ça me fasse péter les garanties, je m'en fous, et à la limite ça serait normal. Si je veux pousser, c'est ma liberté. J'ai exactement le même raisonnement avec les caméras et Magic Lantern. À l'époque où les Canon, on mettait Magic Lantern, ça faisait péter la garantie. Mais pour moi, c'est une liberté de consommateur de pousser mon truc, de pousser le moteur au-delà des limites recommandées, tout en ayant les avertissements.
Ouais, mais c'est là où c'est borderline, c'est qu'en fait Apple se protège aussi dans un sens là-dedans en disant ok, mais tu peux pas tout faire tourner dessus, mais au moins t'es protégé et le truc il tournera super bien et même dans 5 ans tu pourras quand même l'utiliser. Alors que si tu l'utilises à fond dès le début et que tu fais péter les garanties, que tu fais même. Il y a des trucs que tu peux faire tourner avec le jailbreak, c'est insane. Enfin, c'est
mais
quoi.
D'ailleurs, c'est quelque chose, moi je vais y revenir dans mon test du S20 Ultra, la 8K en vidéo. C'est typiquement ça. C'est Samsung qui dit Ouais, on va le mettre, ils peuvent le faire. Mais ça. Le truc, il est limité à 3 minutes. T'as plus d'autofocus, ouais, c'est 24 images secondes. Ça en devient ridicule. C'est, regardez, vous pouvez le pousser jusqu'à là, mais le processeur, après, il est mort, vous n'avez plus de batterie. Exactement. C'est fini, quoi.
Après, il y a, plusieurs problèmes. Quand on regarde vraiment juste pragmatiquement parlant, au niveau constructeur, c'est compliqué de laisser ça. Parce que tu sais très bien que quand il y a déjà des pages où tu dois accepter les CGU, ben, tu scrolles jusqu'à la fin et tu lis pas, donc tu auras toujours un gros troupeau pour t'emmerder. Et ensuite, il faut savoir que c'est pas la vision d'un constructeur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur Android c'est une liberté. Non, c'est parce qu'il y a assez de casse-cou pour permettre de déverrouiller les appareils, d'en faire un peu ce qu'on en veut. Mais crois-moi que chez Samsung, quand les mecs ils voient, ou chez une autre marque, hein, qui voit son téléphone avec une ROM custom. Ouais, il y a 2-3 mecs que ça va dire, ouais, c'est pas mal parce qu'ils ont un côté geek, mais la plupart des gens de l'industrie vont dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on a conçu notre produit. Et imaginons, je vous donne un exemple, nous en étant vidéaste, est-ce qu'on aimerait qu'on fait une vidéo et que parce que quelqu'un aurait payé les droits, il la prenne, il en fait ce qu'il veut et il change complètement ce que toi t'as voulu montrer comme message dans ta vidéo? Tu vois?
Ben moi qui me suis fait pirater une vidéo par la télé, qui l'a remontée avec ma gueule dedans. Non, c'est sûr que ça fait pas plaisir.
Mais tu vois, ça fait pas plaisir. Ouais. Donc nous, on a envie de dire du coup, un point de vue consommateur, oui, on a envie de laisser la liberté de faire ce qu'on a envie. Et pareil, comme Jérôme, on est capable de se dire, nous, intelligemment, que oui, si on nous fait péter les garanties, tout ça, on accepte le risque. Mais on peut, en fait, si on se met du côté de la marque, en fonction de quelle chaise tu t'assois.
Mais tu vois, juste pour rebondir, parce que du coup, tu fais réfléchir avec cette histoire de vidéo. Moi, j'aurais rien contre qu'on utilise mes images tant que tu fais pas d'argent avec.
D'accord.
Et quelque part, ça serait un peu pareil avec les smartphones. Tu vois, quelque part, je trouve que Apple devrait laisser faire les Hackintosh, mais pas les laisser vendre. Je sais, c'est un peu débile ce que je dis, mais tu vois ce que je veux dire. Faire du fric avec le boulot des autres... Pour moi, c'est la limite à pas franchir.
Ouais, après, connaissant l'ADN d'Apple, je sais que, tu vois, ils ont une vision très jusqu'au boutiste des choses. Et je pense que les autres marques, c'est un peu pareil. Mais chez Apple, ça, c'est particulièrement mis en avant parce qu'il y a eu Steve Jobs aussi pour ça. Le gars, il avait une vision d'un produit, quoi. Alors, tu lui enlèves, je crois que tu lui enlèverais un sticker avec une pomme qu'il aurait mis là. Le mec, déjà, ça lui ferait des boutons, en fait. Donc, quand
bah, on a vu où ça l'a mené.
Pas comme ça.
Quentin, avance-toi un peu parce que t'es flou. Pourtant, j'ai mis à F5 pour limiter la profondeur, pour avoir une grande profondeur de champ. Non, là, t'es en train de tourner le pare-soleil.
C'est parce qu'il y a le micro dans le champ.
Oui, il y a le micro dans le champ, ouais. Non, ah oui, légèrement.
Ça me stresse.
Ça te stresse. Voilà.
Ouais, c'est parfait.
Ouais, on a plus le micro dans le champ. Allez, on continue.
Allez.
C'était une blague d'humour noir, hein, avant que j'ai des gens qui s'offusquent.
C'est pas propre, tu glisses.
En parlant d'humour noir.
Parlant d'humour noir, on va parler un petit peu de TikTok. Alors, messieurs, si vous n'êtes pas au courant, mais je pense que vous êtes au courant, et la chatroom, je vais vous montrer le nouveau truc à la mode, le Skull Breaker Challenge sur TikTok. Et on va avoir un petit peu des réactions de tout le monde. Alors, je le décris pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Le Skull Breaker Challenge consiste à faire sauter un de ses amis en l'air et lui faire un croche-patte quand il retombe, lui permettant comme ça de tomber extrêmement violemment. Vous avez de la chance, j'ai pas mis le son parce que les sons sont assez impressionnants. Hein.
Ça me rend fou.
Notamment la dame qui vient de tomber. Elle, c'est le pire. On voit en plus, c'est vraiment du dallage dur, tu vois.
Lui aussi, c'est pas mal.
Lui, il se relève pas, lui. Non. Lui, il se relève pas. Donc, c'est le nouveau challenge à la mode sur TikTok. Lui, il se relève vraiment pas.
C'était une blague.
On rigole.
Maintenant, 6 heures aux urgences maintenant.
Voilà, c'est pour faire de la vue. Alors, sur cette histoire, justement, il y a eu effectivement un gros bad buzz. Jusqu'où on va pour avoir de la notoriété? Aujourd'hui, et c'est un message, je pense, que nous, influenceurs, et je sais que tout le monde dit « Ouais, j'aime pas ce mot, influenceur ». Mais je me demande s'il y en a certains qui n'aiment pas ce mot parce qu'ils n'aiment pas les responsabilités qui vont avec ce mot. Influenceur, ça veut dire que tu influences d'une certaine mesure les gens qui t'écoutent et par rapport à ce que tu fais. Donc, ça devrait engendrer une responsabilité. Or, aujourd'hui, un certain nombre d'influenceurs, notamment sur ces réseaux TikTok, Instagram, etc., vont de plus en plus dans le sensationnalisme, se pendent à des ponts, grimpent à des trucs, sautent en parachute sans parachute. Tout ça pour pousser le clic, pour pousser la vue.
Et ça finit bien, le parachute.
Ouais, j'ai une image dans la tête, là, c'est improbable.
Non, ça, non, non. Disons qu'il l'a fait une fois. Ah, ouais, il l'a fait une fois, il n'a jamais recommencé. Okay. Ouais. D'ailleurs, c'est sa seule vidéo, c'est marrant. Hein. Aujourd'hui, justement, on le sait, depuis la nuit des temps, depuis les gladiateurs et avant les gladiateurs, l'humiliation et le spectaculaire, ça génère des vues et de l'intérêt. On est wired comme ça, l'être humain. Si tu nous dis, ouah, tu vas voir un truc bien humiliant, et bien spectaculaire, okay, on ne peut pas s'empêcher de cliquer à ça.
Et puis, il y a du temps des gladiateurs, c'était le pouce en bas qui était souvent populaire.
Oui, c'est alors nous, on pourrait faire, il faudrait que j'invite Nota Bene, parce qu'en fait, le pouce en bas, c'est une légende historique. Oui. Okay, c'était pas exactement comme ça que ça se passait chez les gladiateurs, mais on va pas faire les ramènes ta science. Et justement, évidemment, ce genre de vidéo et ce genre de comportement, et la chatroom, on le voit bien, ils sont scandalisés par ce genre de truc. La chose rassurante, c'est que le hashtag #StopSkullChallenge est devenu plus populaire que le Skull Challenge. Donc, il y a des mécanismes d'autorégulation. Il faut arrêter de dire que la génération mini-nuls, et c'est comme ça que je les appelle maintenant, les mini-nuls.
Il y avait les mini-cums et les mini-nuls.
Et maintenant, les mini-nuls et la génération d'après sont pas non plus complètement bêtes, et il y a des mécanismes d'autorégulation. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? C'est que les influenceurs, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité qu'il faut assumer, même dans les titres, quand on les choisit, même à notre niveau, hein, au niveau de la tech, pour faire un bon titre, est-ce que parfois on n'a pas un petit peu trop tiré, sachant que des gens vont prendre des décisions d'achat par rapport à nos vidéos? Est-ce que vous sentez le poids de cette responsabilité que je vous ai mis sur les épaules, Quentin 11, et Mathieu?
iPhone 11 Pro versus coronavirus. Ouais. Le test. Mais c'est clair qu'à partir du moment où tu prends l'étiquette, enfin à partir du moment où tu commences à publier des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, des trucs comme ça, tu prends une responsabilité, même si t'as pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, tu t'exposes en fait.
Tu veux dire quoi par là?
Ah bah tu as ta part de responsabilité aussi.
Mais à partir du moment où t'exposes ce que tu fais, forcément ça peut avoir des répercussions et ça peut devenir totalement viral. On voit ce truc là débile, c'est devenu viral pour rien en fait.
Et surtout, il y a un truc que je veux mettre. Alors, je sais qu'on a une chatroom responsable, vous êtes des gens exceptionnels et tout ça, mais si vous pouvez faire diffuser le message, on voit des gens qui font la blague et qui essayent d'attraper la personne pour dire ah non, mais t'inquiète, je te retiens. Ça marche pas. Vous voyez bien qu'il se rate complet parce que la chute, elle est tellement aléatoire.
C'est que, hyper voilà, dangereux en plus. C'est
n'importe quoi. Même en se disant t'inquiète, on l'a saisi la personne, non, on ne fait pas ça. On ne fait juste pas ça.
Le problème, parce que très honnêtement, moi je vais être objectif, quand j'avais cet âge-là, j'en ai fait des trucs débiles.
Oui, oui.
Je ne vais même pas commencer à vous raconter parce qu'il y a des trucs, ça passerait même pas sur TikTok.
Mais tu ne partageais pas aux gens.
Ben voilà. En fait, le problème d'aujourd'hui, c'est la visibilité offerte à ce genre de conneries d'ado.
C'est ça.
Parce que moi, des conneries d'ado mettant notre vie en danger, j'en ai fait. Des trucs où on se faisait évanouir en arrêtant la respiration.
Bon, après, on n'avait pas la même enfance, mais bon.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, on n'avait pas la même visibilité, quoi.
Mais voilà, c'est ça.
Voilà. Donc. Et puis, c'est vrai que les ados ont toujours tendance à faire ce genre de conneries. Il y en a qui en meurent, et ça a toujours existé.
Ouais, oui.
Le problème aujourd'hui, c'est que comme il y a une course à la notoriété, et il y a une escalade, et qu'il y a une visibilité de ces conneries-là, les limites deviennent de plus en plus borderline. Et là, vraiment, moi, j'en veux de plus en plus à des influenceurs que je vois faire des choses où ils ne racontent pas à leur communauté qu'ils ont pris des précautions, et qui ça donne l'impression d'être facile, etc. D'ailleurs, il y en a qui en sont morts. Hein. Je lisais encore hier, à l'anniversaire d'une influenceuse russe, ils ont eu la bonne idée de mettre de la glace sèche dans la piscine. Je crois qu'il y a 7 morts ou un truc comme ça. Quoi.
Ah ouais, d'accord.
Ah putain.
Ouais, donc.
Avant le coronavirus, il y aura toujours la connerie hein, pour nous. Pour ouais, nous, ouais, ouais, ouais. Mais ouais. En plus, il y a ce côté humiliant pour la victime là, qui se fait. Voilà, parce que tu rigoles de. Enfin. Moi, je rigole pas, mais pour ceux qui regardent ça, ils rigolent de la personne qui tombe. Donc, il y a ce côté simulation. Après, pour en revenir au débat que tu avais mis en place, effectivement, il faut quand même. Alors, qu'on veuille vendre une vidéo par un titre, Moi, je peux l'entendre. Alors, parce que bon, moi, je mets ma casquette youtubeur et en même temps spectateur, parce qu'on est aussi des spectateurs des vidéos que l'on est amené à regarder. On a des abonnements, nous aussi, on regarde des gens. Et mais que tu puisses vouloir vendre avec un titre un petit peu racoleur, ça peut s'entendre. Après, le truc, c'est que je pense qu'il faut quand même garder en tête les conséquences de ce que tu vas faire
Ouais, que
dans
t'en prennes la
chacune de ta
responsabilité en
vidéo.
vrai.
Ça fait très,
Surtout.
voilà, conscience pour moi, je suis blanc comme neige. Non, des erreurs, on peut en commettre et on en commet sûrement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que il faut quand même garder à l'esprit que tu vas impacter, que ce soit l'achat ou une action de quelqu'un par une vidéo. Et ça, oui, il faudrait. On a beau se dire qu'on n'est pas journaliste, qu'on n'a pas, on n'est pas censé avoir ou pas cette déontologie de journaliste. Il faut quand même avoir cette déontologie, on va dire, juste d'être humain.
Non, mais
Et
je
voilà.
pense qu'on va arriver à une déontologie d'influenceur. Et je pense qu'il la faut. Alors pour l'instant,
Oui.
chacun se la forge. Mais je pense que voilà, on a une responsabilité au même titre que les journalistes.
Oui.
On ne fait pas le même boulot que les journalistes, ça
Non,
je
c'est
suis
sûr.
d'accord. On est là pour partager une passion, on n'est pas là pour être objectif. Mais on a quand même des responsabilités, nous, dans notre cas, dans la tech, dans l'achat des produits.
C'est ça.
Et moi, c'est des questions que je me pose beaucoup maintenant quand je teste des produits. J'essaye vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a dépensé
Voilà.
500, 700, 1300 euros pour un produit.
Est-ce que ça vaut
Même
le coup,
si
quoi?
on me l'a donné ou si on me l'a prêté pour un prêt presse, j'essaye vraiment d'avoir cette déontologie-là, de me mettre à la place. Si moi, j'avais claqué cet argent-là,
Voilà, c'est
est-ce
ça.
que j'admettrais certains des problèmes?
Voilà.
Parce que je l'admets, moi, dans certaines de mes vidéos, j'ai peut-être été trop cool avec certaines marques parce que j'étais pas plus impliqué que ça dans le produit.
Après,
Non, mais ouais, c'est ça, hein.
on sait très bien que la review parfaite, elle n'existe pas, mais faire de son mieux. C'est le leitmotiv qu'on doit avoir à chacune de nos vidéos. Et après, de toute façon, vous êtes là pour nous juger sur pièce, avec les commentaires. Vous savez faire très bien, vous savez nous
Non, mais
défoncer quand il faut.
surtout qu'il faut pas oublier que
Voilà.
derrière, il y a des gens qui regardent et il y en a qui sont plus à même à être influençables que d'autres et qui vont plus écouter la personne parce qu'il a confiance en lui, même s'il la connaît pas vraiment, mais il la connaît à travers Internet. Il a confiance en lui, il l'aime bien, voilà, il regarde son contenu. Il y en a qui sont plus influençables que d'autres, voilà, c'est un fait. Et ce genre de conneries qu'on peut voir sur Internet, bah, il y en a qui vont se dire: Ah ok, bon bah je vais essayer parce que c'est marrant, et puis ah lui je l'aime beaucoup, et s'il l'a fait, c'est que ça doit être marrant, donc voilà, ils le font. Et c'est des trucs qui, bah, c'est pas la première fois, hein, pas la première connerie
Donc,
que ça arrive.
en prenant notre responsabilité d'influenceur, on va tous chanter bim bam boum. Mon
Faut faire
Dieu.
attention, voilà,
Faut
c'est
faire
tout.
attention.
Voilà. Et pas
Je
croire tout ce qu'on voit aussi. Hein. Oui.
continue et on va parler de piratage.
Oh non,
je vois pas de quoi tu parles, je ne connais absolument pas
Eh
ce sujet.
bien, il faut le savoir.
Oui, alors.
Aurore Berger. Propose un amendement au projet de loi sur l'audiovisuel vise à simplifier les sanctions contre le piratage de films et de séries. Le but, les rendre plus dissuasives. L'idée, c'est que les téléchargements illégaux pourraient être passibles d'une amende pouvant atteindre les 350 euros pour les pirates ou 1050 euros pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, en vertu d'un amendement au projet de loi. Gna, 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 gna. Cette procédure peut intervenir après le troisième avertissement envoyé par la Hadopi. Ce serait également le cas
Oh.
de l'amende prévue par le texte d'Aurore
Ah bon,
Berger,
c'est bon
dont le montant serait fixé en fonction de la gravité des faits. Donc en gros, c'est le prix minimum, hein,
oui, bah bien
les
sûr.
350
Bah
euros. En
oui.
fonction de la gravité, sachez quand même que ça ne vous protégerait pas d'éventuelles poursuites civiles de la part des ayants droit pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts. Donc, on va dire que c'est vraiment
Ça
le
pique.
minimum. L'idée aussi du projet de loi, c'est de regrouper la Hadopi et le CSA au sein d'une même autorité administrative baptisée l'ARCOM. C'est vrai que Hadopi a une tellement mauvaise presse. Alors, la question que je vais vous poser, parce que finalement, on ne va pas tomber dans les débats de piratage, je ne sais pas bien, machin, etc.
Non,
Mais surtout,
on va pas rentrer là-dedans.
aujourd'hui, aujourd'hui, avec la multiplication qu'on va connaître dans les mois prochains des offres de streaming. Parce qu'on est d'accord pour dire que le streaming a limité le piratage.
Oui.
On pirate plus de musique parce que maintenant on paye 10 euros.
Flemme surtout.
Et puis c'est la flemme.
Ouais,
Non mais
clairement.
moi j'ai toujours dit quand on a un produit qui est mieux que le piratage,
Oui.
Bah on est prêt à payer.
C'est
Oui.
ça.
Il faut juste que le produit soit mieux. Or, au niveau série, audiovisuel et film, on va arriver à un problème cette année. C'est
Le
la
choix.
multiplication des offres entre Disney+, OCS, Netflix, Max. Amazon, HBA, Hulu, où là, il y a une série que j'aimerais bien regarder sur Hulu. Bref, aujourd'hui, au niveau audiovisuel, ils sont en train de cloisonner les choses. Ce que la musique n'a pas trop fait en offrant des plateformes plus ou moins ouvertes, t'as pas tout sur toutes les plateformes, mais globalement,
l'offre est assez
voilà, variée, t'as de quoi écouter ouais. sur toutes les plateformes. Là, bien. Il va vraiment y avoir des exclusivités limitées à certains canaux. Si t'additionnes tous les abonnements, on arrive facilement à du 80, voire au-dessus de 100€ par mois pour être abonné à tout. Donc, très peu de gens vont le faire. Est-ce qu'on va pas avoir une recrudescence du piratage? Et est-ce que justement, ce projet de loi n'arrive pas à un moment où ils se disent, bon, on va remplir les caisses? Parce que là, je sens que The Mandalorian, ça a été ça a été bien piraté, les amis. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que ça va être un retour en force du piratage? Est-ce que vous pouvez le dire, hein, de toute façon, les flics ne vont pas débarquer. Est-ce que vous vous êtes remis à pirater alors que vous ne piratiez plus? Est-ce que vous oserez... Moi, j'ose le dire. C'est vrai que je me suis remis à pirater certaines séries alors que je ne piratais quasiment plus.
Marion, t'as balancé hein, pour The Mandalorian.
Oui.
Il y a 2-3 indices qui sont laissés par-ci par-là. Et quand j'ai remis, il te fait chouette, Disney Plus arrive, je vais pouvoir re-regarder The Mandalorian. Ah bon?
Ah bon, tu l'as déjà vu? Mais oui, on me l'a envoyé en VHS, le cousin d'Amérique.
Des États-Unis.
Alors, attention, piratage, on comprend regarder en streaming ou alors en streaming illégal ou alors télécharger.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
Les deux sont illégales, mec. Les deux sont illégales.
Alors, comment dire, si on passe par là, est-ce que ça passe ou pas? Dites-nous tout.
J'avoue avoir regardé les 3 premiers épisodes de The Mandalorian en streaming jusqu'au moment où ça m'a saoulé hein, parce que la qualité était pourrie, donc j'ai attendu jusqu'à bientôt.
Oui, je me suis remis à pirater et je vais même te dire, au-delà de ça, il y a aussi encore un marché qui est encore plus symptomatique de ce que tu racontes, que je vois moi, c'est pour les gens qui sont passionnés de sport.
Tu alors vois, justement, oui, le foot, le streaming du foot, c'est un gros problème pour les ayants droit. Oui, et on le sait, les ayants droit des matchs de foot, c'est les moins tendres. Parce que quelque part, sur les films et les séries, on sent bien qu'il y a un jeu ambigu de la part d'Hollywood. Ouais, ils aiment bien que Game of Thrones, tout le monde l'ait piraté, que ce soit les séries les plus piratées au monde. Ça leur fait plaisir. Parce que c'est un peu comme le freemium. Si t'as 1% qui paye, ça rapporte déjà de la thune. Ouais. Donc, ils préfèrent avoir un gros succès de piratage que de... Par contre, les ayants droit du sport...
Ah, c'est hardcore. Hein.
Ils sont hardcore.
Eux, ils prennent cher. Ils prennent cher. Et notamment aussi, c'est par là que l'IPTV, notamment, a explosé. Parce qu'en fait, quand tu regardes un petit peu comment ça se passe, c'est que tu peux avoir un abonnement pour voir le championnat français. Mais par contre, tu peux pas avoir la fameuse Ligue des champions, qui est la coupe européenne.
Ouais. C'est insupportable.
On a pu regarder. Pour peu que t'aimes autre chose que le foot, pour voir du basket, c'est compliqué. Il te faut un abonnement RMC Sport, Bein, ESPN,
Canal Plus,
et tout ça.
C'est encore pire que le streaming. Genre, c'est pire. Vraiment,
Et les gens, en fait, ils n'ont pas trouvé autre chose pour avoir tout en un que de passer par la case piratage via l'IPTV qui a un succès de fou. Et moi, pour tout vous dire, j'ai même reçu une proposition d'OP. Ils s'en cachent même pas, tu vois. Les gens te demandent, on a un service d'IPTV, tu veux pas nous faire une petite vidéo?
Mais l'IPTV, c'est vraiment dans le viseur, hein, je pense. Hein. Profitez-en parce que je pense qu'il n'y en a plus pour longtemps. Hein.
Et les gens sont prêts à payer parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IPTV, c'est... Alors, il y a du gratuit, mais c'est de très mauvaise qualité. Ça coupe tout le temps. En fait, ils font sauter les IP tout le temps, donc t'es obligé de... Enfin, c'est inregardable, mais des gens sont prêts à payer 50, 70 euros. Pour l'année ou 100€, il y en a ceux qui ça monte jusqu'à 100€ pour avoir accès au sport en fait.
Ouais, mais là on revient à un problème et nous on est des créateurs de contenu donc on est un peu des deux côtés de la barrière.
Oui, bien sûr.
Le problème des ayants droit parce que l'IPTV ça peut coûter de l'argent. Mais là pour le coup, l'argent va pas du tout dans la poche des créateurs du contenu ou de ceux qui financent. Donc c'est un peu comme il y a d'autres, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est un peu comme les adblocks. L'argent ne va pas aux créateurs de contenu.
Oui, Jérôme, mais il faut qu'ils soient.
Mais je suis partagé entre les deux.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'eux aussi comprennent que si c'est comme ça, c'est qu'il y a un truc qui.
Il y a un problème. Mais c'est là où moi, je pense qu'on n'est pas bien défendu, nous, consommateurs, audiovisuels. On devrait fixer des limites aux exclusivités. Ça paraît débile de dire ça, mais une chaîne ne devrait pas pouvoir avoir, comme tu dis, dans le sport. Pour moi, c'est dégueulasse de cloisonner les gens et de les obliger à prendre tel ou tel truc, ou alors que les mecs permettent des abonnements à la carte à l'heure pour pouvoir regarder le contenu.
Mais je crois qu'ils l'ont fait pour la Coupe du Monde, des trucs comme ça où tu pouvais prendre juste, enfin, tu pouvais regarder pendant la journée.
Ouais.
Et ça c'était malin parce que moi c'est ce que j'ai envie de faire.
Moi j'ai envie, tu vois, Disney Plus, je suis prêt à les payer sans problème pour regarder The Mandalorian, tu vois. J'aimerais plus de contenu à la carte. Quitte à le payer plus cher qu'un abonnement, c'est normal aussi. Mais
est-ce que d'ailleurs tu trouves pas ça couillon de la part de Disney d'avoir retardé le lancement, de pas avoir fait un lancement mondial à l'époque à laquelle on vit, tu vois, sachant que en fait, en plus, ils ont même pas de justification au niveau par exemple du doublage de la VF, puisqu'on sait que The Mandalorian, pour ceux qui l'ont piraté, il y a une version VF qui est incluse dedans. Le contenu, il est déjà conçu pour être prêt partout dans le monde.
Je pense qu'ils ont, juste attendu parce que c'est Netflix qui a un énorme marché en France, hein, très clairement. Et du coup, je pense qu'ils ont surtout retardé leur lancement pour être prêts pour casser des têtes directement. Mais le problème, c'est que on l'a vu. A été lancé en novembre aux États-Unis. Les gens, ils n'ont pas attendu mars pour regarder The Mandalorian.
Ouais, mais du coup, si tu te lances là et que tu as une offre un peu bancale, par exemple, là, il y a The Mandalorian, mais sur la Disney Plus, pour l'instant, il y a quoi ? Parce que ce qui va attirer les gens, faut pas se mentir, ça va être les séries Marvel. Ouais. Si elles arrivent le mec qui a vu The Mandalorian, il va peut-être se dire, je l'ai vu, là, il y a pas grand-chose, je m'abonnerai plus tard.
C'est ce qui fait peur à Disney.
Ce qui est con, ce qui est dommage.
Disney, on le voit
déjà
aux États-Unis, les gens sont abonnés aux deux mois, puis là, ils sont déjà en train de résilier parce que le contenu n'est pas encore là.
Et là, l'effet, il va être
Apple TV, si c'était pas gratuit pour ceux qui prenaient des iPhones et tout, ça ferait longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents.
C'est clair.
Mais je pense qu'Apple Disney va arriver avec un catalogue bien plus important que ce qu'on croit, je pense. Déjà qu'ils ont ils ont plein de choses entre les mains.
Ouais, mais il faut du temps quand même pour produire.
Ah ouais, il faut du temps. Mais ils ont déjà des contenus qui peuvent diffuser, genre les 600 épisodes des Simpsons, les trucs comme ça. Donc c'est des trucs que les gens vont aller parce qu'ils aiment un truc spécifique et ils vont prendre l'abonnement. Et après, ça sera à Disney de combler leur stratégie pour essayer d'attirer les gens et en sortant des nouveautés bien plus souvent que Netflix le fait. Pour rattraper le retard entre guillemets qu'ils ont.
Et pour finir, Jérôme, moi je comprends à chaque fois que tu dis la question parce que
c'est moi qui ai le droit de dire pour finir.
Ouais, ok.
il est fou. J'ai ton mug. Alors pour finir, je clôturerai le débat, Jérôme.
Demain, je lance mon mug. C'est parti. Ouais. Non mais en gros, je comprends ce que tu veux dire à chaque fois. Le bol. T'as du bol.
Le bol, restez connecté.
Avec une prise USB. Non mais je comprends quand tu dis oui, nous aussi on est créateurs de contenu. Il faut savoir se mettre à leur place et tout. Le truc, c'est qu'il y a un moment, c'est comme tout, quand on dit que tu fais une connerie et que t'arrives pas à te remettre en question, parce que la musique, on voit bien, la musique, ça a réussi à se remettre en question. Alors, et que t'as l'impression que ces mecs-là, derrière, ils s'accrochent au moindre centime qu'ils peuvent grappiller en disant ouais, mais si on fait cette stratégie-là, on économise. Non, du coup, tu perds parce que les gens, ils pirateront. Tant pis.
Et on va dire un dernier message pour conclure au gouvernement français. Moi, je dis pourquoi pas renforcer les sanctions, tu vois, provoque, pourquoi pas, mais putain, faites quelque chose sur cette chronologie des médias, quoi. Si, la France, actuellement, est en train de nourrir le marché des VPN, hein, on va pas citer qui, parce que c'est pas mon sponsor.
Non, c'est
pas. et on nourrit le marché du piratage à cause de cette putain que je comprends, qui a sauvé des emplois à une époque et tout, mais il faut revoir les choses.
Mais tu vois, c'est ça. On revient à la même chose, c'est que quand tu te remets pas en question, faut pas t'étonner que chacun prenne.
Bon, allez, terrain glissant, on va pas continuer, on va aller sur des terrains plus consensuels.
Attends, on va parler un petit peu de photos.
On va parler d'Apple, hein, ça se fait plaisir, hein, Mathieu. Non, plus spécifiquement, on va parler des photos en basse luminosité, ces fameuses photos de nuit dont on se gargarise dans nos tests. On voit d'ailleurs des youtubeurs qui ont des grosses bosses puisqu'ils se prennent des poteaux, puisqu'ils essayent de faire des photos dans les endroits les plus sombres. Et je vous laisse imaginer où ça va se terminer. Hein. Personne ne l'a encore fait, mais je pense que la photo de l'intérieur... Bref.
La coloscopie.
Le night mode, il est incroyable. On arrive même à voir l'intérieur de ces boyaux. Ça va venir.
Ma coloscopie avec l'iPhone 15.
Exactement. Néanmoins, Apple a lancé des concours photo, hein, ils sont assez spécialistes de ça. Et cette année, une des grandes rubriques de leur concours photo, c'était le Night Mode. Donc je vais vous présenter, ainsi qu'à la chatroom, je vais décrire pour ceux qui n'ont pas la vidéo, les 6 lauréats. Et ensuite, je vous poserai une question sur la photo de nuit. Et je la poserai aussi à la chatroom. Désolé la chatroom, j'arrive pas, ça va très vite dans la chatroom, on est beaucoup hein, ce matin de connectés. Mais on vous voit quand même, et puis on va essayer de plus prendre votre avis. Donc les 6 lauréats, nous avons cette photo-ci. Alors vous la voyez peut-être bien, pas bien, moi je trouve que la composition est intéressante. Ça a l'air d'être dans des grandes barres d'immeubles, du linge pendu, mais bon, c'est pas de la photo spectaculaire. Mais ça, c'est un peu la spécialité Apple. Hein. Ils aiment bien prendre des photos un peu arty. Ouais.
On dirait que les Mexique. Photos spectaculaires. Ou peut... Alors, je te dis ça parce que j'ai vu le Terminator également, on va dire. Et il y avait une scène qui ressemblait exactement dans ce type d'endroit.
Il
n'y
a pas écrit en dessous.
D'accord. Andrei Malouinov, ça a l'air d'être un russe. Attends, c'est peut-être écrit au-dessus.
Ok, non, on
a
pas... j'ai tout faux, c'est pas grave.
On a cette photo-ci, intéressant. Intéressant le choix du sujet. Est-ce qu'il l'a probablement retouché perdu derrière ou est-ce que ça fait vraiment rouge comme ça ou est-ce que l'iPhone fait des couleurs complètement bizarroïdes en mode nuit, j'en sais rien.
Il fait des couleurs un peu bizarres, mais moi ce qui m'étonne surtout c'est le sol.
Tous ils font des couleurs un peu bizarres.
J'avais fait la tour Eiffel en vert là.
Oula. Attends, on va montrer un peu à l'écran quand même. Mathieu et sa tour Eiffel verte.
Voilà.
Et c'est pas de la retouche, ça.
Non. Mais en fait, elle a été teinte en verte à un moment.
Ah oui, d'accord.
À quelle occasion. Non.
Ah oui, c'est pas une erreur.
Non, parce que là, sinon, je jette le téléphone.
Il ressemble vachement à un iPhone.
Oui, exactement. C'est vrai, malheureusement.
On revient sur les lauréats, mais quand même, choix de sujet vachement intéressant. Celle-là, elle est assez magnifique. Mais est-ce qu'on peut parler de photos de nuit? Il y aurait débat. Pour moi, c'est une photo de silhouette, mais le ciel, je suis pas sûr que ça soit la nuit. Mais cette photo est assez magnifique.
Brandon, il avait fait un truc comme
on
ça.
On a celle-là, moi je trouve la composition hyper intéressante. On est plus dans la photo reportage, mais justement avec une lumière centrale qui éclaire les visages et même le flou des gens. Enfin bon, on pourrait analyser la photo, mais elle est très très jolie. Ouais. Et pour moi, la moins intéressante du lot, c'est peut-être celle-là. Il y a une composition, le sujet est sympa, mais elle casse pas trois pattes à un canard.
Ça raconte pas grand-chose en fait.
Ouais, elle raconte pas grand-chose. Si ce n'est
un mec qui a crevé son pneu.
Non, il met ses chaînes.
D'accord.
Voilà. Elle est pas désagréable non plus. Ces photos vont être utilisées pour des campagnes de pub d'Apple. Ils vont rémunérer les photographes cette année, ce qui ne faisait pas les autres années. Moi, la question que j'ai à vous poser, à poser à la chatroom, soyons francs, je vous demande ça, YouTubeurs, soyons francs, c'est difficile.
Voilà. Explique-nous ça.
Soyons francs, en dehors des tests qu'on fait des smartphones qu'on présente sur la chaîne, est-ce que vous avez pris beaucoup de photos en mode nuit avec vos smartphones?
Quand tu dis beaucoup, tu veux un pourcentage?
Bah à la limite, soit un pourcentage. Moi, je le dis honnêtement, je crois que j'ai pris 3 photos en mode nuit avec mon iPhone Pro depuis que je l'ai testé. J'en avais fait une quinzaine pour le test et j'ai dû en prendre 3. C'est hyper exceptionnel et encore, je le fais sur l'iPhone parce que le mode nuit s'active automatiquement.
C'est vrai.
Alors que sur des Android où ça ne s'active pas automatiquement, je crois que je le ferais encore moins d'activer le mode nuit. Donc,
je pense, honnêtement, j'ai dû prendre. Il n'y en a pas énormément, très clairement. Déjà, on a moins tendance à prendre des photos la nuit en vrai. Mais j'ai dû prendre peut-être 30 photos en mode nuit. En vraiment mode nuit où tu te dis, tu utilises le truc, limite t'es sur trépied et puis tu fais le truc avec le compte à rebours quoi. Mais pas beaucoup plus que 20-30 quoi, maximum, grand maximum.
Toi Mathieu ?
Moi beaucoup, j'étais en train de regarder pendant que, et j'en prends un peu plus, j'ai tendance à activer souvent le mode nuit. Et ce qui est bien c'est que d'ailleurs, tu le sais parce que quand tu regardes tes photos, il y a sur Google Photos, tu as la lune qui apparaît pour dire que t'as bien utilisé le mode nuit. Oui, après c'est plus dans des moments où tu pars en voyage ou t'es avec des amis et que tu sors. Je l'utilise souvent parce que le mode nuit du Pixel 4 moi me fait assez kiffer.
Oui, il est très bon sur le Pixel 4.
Voilà. Mais par contre, tu vois, ce qui est drôle, c'est que je pourrais te dire pareil que sur l'astrophotographie où ils ont fait tout un argument commercial alors que j'en ai fait aucune.
C'est sorti ça?
Bah écoute, c'est dispo, mais en fait ça s'utilise avec le mode nuit en fait.
Non, j'ai voulu tester, j'ai jamais en fait, eu un résultat d'astrophotographie.
Si tu mets le mode nuit et que tu pointes vers les étoiles.
T'as eu un désastrophotographie.
Voilà. Ouais. J'ai rien eu du tout.
Mais oui, il existe. Et puis il y a Bertrand Marquet, je lui fais une petite pub. Il a sur son compte Twitter, il a beaucoup de photos d'astrophotographie. Elles sont très.
Moi, le constat que je fais, c'est que bien souvent mes photos de nuit sont meilleures sans le mode nuit. Parce que j'aime la nuit qui ressemble à la nuit.
Tout à fait.
Et j'aime de moins en moins cette lumière artificielle créée par une longue exposition stabilisée. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas la longue exposition. Mais on a un rendu un peu entre les deux avec ces modes nuit qui sont de la longue exposition intelligente.
Ouais.
À moins de vouloir vraiment faire une photo informative où je montrais quelque chose de spécifique, j'ai tendance à désactiver, puisqu'on peut le faire sur l'iPhone, le mode nuit pour avoir une photo de nuit plus réussie à mon goût. Ouais, en fait.
Après, c'est sympa à utiliser quand le jour se lève. Parce que tu as des fois des accentuations au niveau de. Ça relève des tons et ça en diminue d'autres. Enfin, t'as un filtre, ça ressemble à un filtre. Pardon. Mais oui, pour te répondre clairement, moi j'en fais. Après, oui, je comprends que ça soit pas non plus. Enfin, ça devrait pas être un argument.
On nous l'a beaucoup mis en avant comme argument de vente, mais finalement. Alors, je regarde un peu la chatroom, il y en a qui ne l'utilisent jamais, il y en a d'autres qui l'utilisent beaucoup. Moi j'ai un Nokia et c'est pourri la qualité. J'en prends pas mal. Je me sers aussi du mode nuit pour améliorer mes photos d'intérieur, d'accord.
Oui.
Un puriste de la night. Une photo de nuit sans voir la nuit, bien d'accord avec toi, Jérôme. Ouais, moi je suis partagé. En fait, le mode nuit, je l'utilise vraiment quand il n'y a pas de lumière du tout. C'est là que ça peut être rigolo.
Mais on sent que tu as évolué dans ta manière de penser. Parce que je me souviens que tu disais à une époque, oui, effectivement, ça rend un peu artificiel, mais derrière, à la retouche, c'est intéressant.
Oui, alors...
C'est là où la vie est biaisée, quand je prends des photos de nuit, moi, je les retouche, en fait.
Donc, et moi, je ramène la nuit.
Voilà,
sur
ouais, voilà nuit, exactement.
Et du coup, j'ai plus... Je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi-même, aussi. je vais parfois utiliser le mode nuit en me disant, derrière, avant de la publier, je vais ramener la nuit. Ramène la nuit, très belle chanson.
Ramène la nuit à la maison.
Bref, je prends une ou deux photos. Génial, mais voilà, génial, les photos de nuit en mode nuit, c'est impressionnant. Mais au-delà du impressionnant, est-ce qu'elles sont intéressantes? Ça, c'est une question que je me pose de plus en plus avec les photos.
Et puis en plus, vu qu'ils arrivent à ramener des ouvertures très très petites, voilà, on est sur les smartphones, on arrive à descendre à du
f1.4. Oui, mais c'est du f1.4 sur un capteur de rognure d'ongle, mec.
On est d'accord, mais je veux dire, déjà, c'est pour ça que tu as aussi des.
C'est du f11 sur ton micro 4 tiers.
On est d'accord. Après, mais c'est pour ça que tu as quand même des choses intéressantes sans avoir à activer le mode nuit déjà de base.
Oui, oui.
Tu vois ça que je veux dire? C'est que ça pousse peut-être moins à utiliser ce fameux mode
nuit. Alors, je sais pas, toi, tu es peut-être plus avancé que moi parce que tu l'as eu avant. Moi, j'ai eu que hier mon S20 et mon S20 Ultra.
Ouais.
Pour l'instant, je suis hyper déçu par le mode nuit. Alors, je sais pas si. Alors, il paraît qu'il faut désactiver le 108 mégapixels sur l'Ultra pour avoir un meilleur mode nuit.
Totalement.
J'ai fait trois photos en mode nuit hier. Elles sont floues.
C'est compliqué parce que si t'en es déjà à devoir bitouiller pour avoir un mode nuit convenable, et même la fameuse mise à jour là.
Non, parce qu'en vrai, le 108 mégapixels sur le S20 Ultra, je vous le dis, il faut pas l'utiliser. Enfin, il faut l'utiliser dans des occasions très particulières. En vrai.
Par exemple, pour la voisine ou pour le
voisin. Parce que tu vois, par exemple,
on voit ce que tu fais avec ton zoom 60.
Cette photo. Bah ça c'est en mode nuit.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse quoi. Je sais pas si on
verra. Bah non, on verra pas bien. Mais
en fait, c'est flou quoi.
Ouais, c'est flou.
C'est flou, ça arrive.
Donc
ça
t'as pas des bonnes. Mais après,
mais c'est pas grave.
Et toi aussi, t'as des problèmes d'assistante
tout le temps.
Donc tu sais que nous, on a les trois ici. Il y a Google qui est là. Nous avons Amazon qui est là.
Ah oui.
Et nous avons Siri qui est là. Et donc parfois j'ai des trucs, c'est kafkaïen.
Ah mais elle me parle tout le temps.
Ça va, Amazon, je l'entends pas souvent. Tu vois, moi pour regarder tes émissions régulièrement, Amazon, ça va. Tu te plains souvent plus de Google que de.
Bon, en même temps, je viens de voir l'heure et je suis en mode panique.
C'est vrai.
On va passer au dernier sujet, messieurs, parce que j'aimerais quand même qu'on fasse un petit fac. Parce que les gens ont peut-être des questions à vous poser. La dernière et le dernier sujet, je pense que c'est le plus important de ce matin.
Le plus fou.
Je vais. Je je vais le présenter en même temps en vidéo et expliquer.
La prochaine.
La chaise de gaming, hein, c'est le truc maintenant, c'est complètement ringard. Le next step, c'est le lit de gaming. Le lit de gaming pour pouvoir jouer et rester toute la journée complètement allongé.
Ça me tue.
Et jouer. Vous avez même le pyjama ninja qui va avec. Avec toutes les subtilités, hein, ils ont pensé à tout.
Le porte-gobelet.
Merde.
Après, entre vous et moi, je vais vous donner un indice.
Les petits paquets de chips, la gourdasse pour boire et tout. Mais donc, tu peux quand même dormir. Enfin, dormir. Bien sûr, regarder des vidéos. Parce que qui dort à notre époque, hein, il faut être complètement con pour dormir.
Je crois qu'il est sur la chaîne Quentin, d'ailleurs.
Oui, ça se voit. Et donc, messieurs... fantasme, fin du monde. Est-ce qu'il manque des chiottes qui seraient directement dedans? Quelle est votre pensée devant cette ingéniosité qui vaut pas si cher? On s'en tire pour 1 053 $.
Ah oui.
Ouais.
Soit t'as l'iPhone, soit t'as le lit.
Vous avez vous avez un indice sur la prochaine vidéo sponsor de Jérôme. Hein, je vous annonce tout de suite. Je pense que Jérôme, il a déjà le contact. Hein.
Moi, je me verrais bien faire le mug. Tu sais, je me réveille, en fait, je me réveillerais à 8h.
Avec l'écran. La chatroom, ça va.
Je me fais mon petit
Samuel, 5 sur 5.
Ça serait pas mal quand même. Hein.
En vrai, ça serait marrant de le tester. Ça serait très marrant de le tester.
Ça serait marrant de tester. Mais dans faut de la place, quand même.
Ouais, faut de la
parce
place,
que moi, ça fait l'ensemble de l'atelier. Là. L'atelier est un lit, quoi.
Et ça, plus le fameux véhicule là où tu te mets dans le truc et qui roule tout seul, là, on est bon.
Ouais, il faudrait des roues, en fait. C'est ça.
Exactement.
Ah, bah là, on est dans Welly. Hein.
Ah, bah là, on a tout. Hein. Il manque un four pour faire chauffer les pizzas entre deux parties. Tu te fais livrer.
Ah oui.
Tu te fais livrer.
Attends.
Lever du roi, ouais, ça serait tout à fait ça. Il y aurait du Lully qui jouerait et je me lèverais.
Exactement.
Les rideaux s'écarteraient et ça serait le démarrage du mug et moi je me gratterais les couilles.
Mais est-ce que le fauteuil est motorisé? Est-ce qu'on peut s'allonger et se relever de façon
comme les
motorisée?
Trucs de vieux, en fait.
Oui, exactement.
Ça va peut-être être la réunion finalement des boomers et des mininus.
Voilà.
Le lit qui marche aussi bien pour les boomers que pour les mininus.
Et on pèsera tous 550 kilos.
Ouais.
On sera bien.
Ouais.
Diabétique,
bien sûr.
Ça sera
avec un coronavirus, vous avez déjà le masque
offert.
Intégré.
Voilà.
L'avenir de l'humanité, le progrès. progrès dans tout
son
ensemble.
C'est peut-être le début de l'extinction, ce truc-là, on ne sait pas.
Ah ouais, ouais, c'est peut-être que dans les livres d'histoire, on atteindra. C'est comme la chute de l'Empire romain. À partir du moment où les humains ont commencé à acheter ça, ça a été la fin de la civilisation occidentale.
C'est ballot, on imagine des films avec des terminators qui nous exterminent, au final,
et
c'est
un lit qui va nous terminer. C'est pas exclu, hein. C'est pas exclu. il manque un moteur 4 roues et un volant sur ce lit. Tout à fait.
Exactement.
Tout à fait. Matt, on pense bien la même chose. Messieurs, on va arrêter là les articles commentés. On va parler de notre sponsor et on va passer ensuite au Cornfac. Notre sponsor, il est derrière moi. Il est là. C'est le Shadow. Le Shadow PC. Vous avez testé déjà le Shadow PC, vous ou pas?
Non,
oui.
Moi j'aimerais bien.
Oui. Bon,
c'est
un petit message lancé.
Voilà. Hein, comme je sais qui regarde l'émission. Hein. Voilà.
Shadow PC, c'est un PC complet à distance, à puissance gamer. Donc, on peut jouer aux jeux vidéo. Toutes les semaines, vous pouvez gagner un mois de Shadow PC grâce au mug Nowtech. Et aujourd'hui, roulement de tambour, c'est le gagnant du jour. Le gagnant du jour, il est où? Il faut que je le trouve. Hop. Il n'est pas là. Il est là. Le gagnant du jour. Nous avons Farel59 qui nous dit « Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour redonner une seconde vie à mon vieux PC. » Donc, si vous voulez gagner un Shadow toutes les semaines pour un mois, eh bien, il faut faire le même type de tweet en mettant le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug Nowtech. J'ai un message à vous faire passer de prévention. Nous avons une personne manifestement pas bienveillante qui a créé un compte Twitter qui s'appelle le Mug Nowtech. Ça n'émane pas du tout de nous. Et cette personne essaye de repérer les gagnants ou en tout cas annonce à des gens qu'ils ont gagné leur Shadow et essaye de leur soutirer des informations. Donc, méfiez-vous, ce compte Le Mug Nowtech, c'est @ Le Mug Nowtech, n'est pas un compte officiel. J'ai essayé de le faire interdire par Twitter. Ils n'ont pas voulu l'interdire. Tu sais, les règles sont très... il faudrait que j'aie une preuve flagrante. Il faudrait le prendre la main dans le sac.
Non, mais sinon, il faut que tout le monde le signale, en fait.
Oui, mais déjà, vous pouvez tous le signaler. Mais il faudrait aussi que j'ai une preuve, la main dans le sac, qu'il a essayé de prendre des informations. Sachez juste que si vous gagnez, vous recevez un DM de la part de Nowtech, officiel. À de rares exceptions, je l'ai fait avec le compte Jérôme Kenborg, parce que je me suis trompé de compte. mais sachez qu'on ne vous demande aucune information. Si vous gagnez, je vous envoie comment, en gros, activer votre Shadow PC pendant un mois, mais je ne vous demande aucune information. Donc, retenez bien ça. De toute façon, d'une manière générale, dans votre hygiène numérique, quiconque vous demande des informations, c'est chelou. Faut vérifier, revérifier. Le mec, il a 12 followers, donc bon, on voit bien que c'est un faux compte. Il avait mis notre logo depuis hier. Il met maintenant un mug parce que je pense qu'il a senti quand même qu'il s'était fait un peu repérer. Ouais. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous sur Instagram. On le sait aussi chez des influenceurs tech, il y a des faux comptes de partout. Ah bah ouais, Jojol, je ne sais pas combien de Jojol officiels il y a.
Le nombre de Jojol qui me suivent.
Méfiez-vous beaucoup de ces comptes autour des jeux concours. Ça rend les gens vulnérables parce que les gens veulent gagner, donc ils sont prêts à cliquer sur n'importe quoi quand on leur dit vous avez gagné.
Ouais. À la limite, si vous pouvez faire une capture d'écran, si vous contactez et envoyez à Jérôme, peut-être ça peut peut-être aider sur le dossier. Si vous voyez qu'il y a des choses qui vous demandent des informations.
Non, sinon je vais recevoir trop de.
N'envoyez rien. Rendez du service,
n'envoyez rien.
Plus de questions nulle part.
J'ai une deuxième information assez importante. Certaines personnes dans le mug hier ont dit qu'il n'y avait pas eu de gagnant au jeu des 200K. C'est faux. On n'a pas fait une annonce de tous les gagnants. Ça, c'est ma faute, j'ai pas eu le temps. Mais sachez que les gagnants ont été contactés. Il nous en reste 3 à qui on doit envoyer des cadeaux.
Ah oui, donc j'attendais mon truc. Donc...
Non, tu l'as pas, t'as pas gagné. Donc, en gros, je suis désolé, hein, mais on n'a pas informé les perdants qu'ils avaient perdu.
Ah.
Donc, certaines personnes se disent qu'il n'y a pas eu de cadeaux parce qu'ils n'ont pas été contactés.
Ah oui.
Si vous n'avez pas été contacté, c'est que vous n'avez pas gagné.
C'est une galère, les concours. Hein.
Les concours, j'ai horreur de ça.
On aura envie d'en faire, mais...
ça demande un temps.
Oui, c'est ça.
T'as beau te dire, on va faire un truc simple, machin.
Et t'as toujours la team.
Nous, il y a des lots qu'on a fait gagner, que les gens veulent pas.
Et t'as toujours un attroupement de gens qui disent on n'a pas de preuves. C'est
que sport, t'as fait un cadeau.
Je suis sûr que c'est ta sœur qui l'a gagné.
Voilà. Non, sachez que les gagnants ont été contactés. Là, on est en retard sur 3 cadeaux. Et oui, ça fait un mois. Mais si on est en retard, c'est pas de notre faute. C'est que soit les produits n'étaient pas disponibles, soit les marques qui font gagner ces cadeaux ne les ont toujours pas envoyés.
Voilà.
Bon. Bref, je ne citerai personne. voilà, c'était 2 informations importantes. C'est toujours désagréable de perdre, mais soyons beaux joueurs. Messieurs, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission. Samuel, on va terminer à 9h10 parce qu'après, ces messieurs doivent nous quitter. Donc, si vous avez des questions, on va dire essentiellement pour Quentin et Mathieu aujourd'hui, c'est le moment de les poser. C'est les camps de fac. Voilà, les camps de fac, il n'y a pas de questions platinium ce matin, donc vous pouvez poser directement tes questions. Hello Jérôme, tes chaussures de voyage, c'est des Tropic Feel, tu en penses quoi? Alors, les Tropic Feel sont effectivement des chaussures que j'ai kickstartées, qui sont géniales quand on va dans des pays chauds, parce que c'est des chaussures fermées, mais tellement aérées qu'on a l'impression d'être en nu-pied. Donc c'est vachement bien. C'est bien. Par contre, la moindre goutte de pluie, t'es inondé dans ta chaussure.
Pourquoi pas pieds nus?
Hein?
Pourquoi pas pieds nus?
Parce que, alors, par exemple, au Vietnam, quand tu te balades la nuit, et qu'il y a des trucs qui grouillent dans les rues, qui sont des familles de cafards.
Je veux dire, pourquoi nu-pieds et pas pieds nus? T'as dit nu-pied.
Ah oui, d'accord.
Ah, j'ai dit nu-pied. Ah, pardon. Je croyais que tu me demandais pourquoi je parle de...
9h15, parce que ça va être long.
Ouais, ça va être long. Hein, ça va être long. Bonjour, j'ai un iPhone XR. Tu me conseilles d'acheter le 11. Non, c'est pas la peine.
Ah non, non, clairement pas. Non.
Clairement pas.
XR est incroyable. Achète pas d'iPhone du tout. Donc,
Là, de ma dernière vidéo, on l'a tourné avec l'iPhone XR. Tu vois, on n'a même pas eu besoin de sortir le 11.
Non, mais donc, le XR est très bien.
Il est très très bien. Si tu très, très... Oh, il y a Steven dans la chatroom.
Ah bah voilà.
Steven, il est juste énervé de ne pas avoir été invité. Voilà. Steven, le problème, c'est qu'il me faudrait un 8 mm pour être 4 sur le mag. Mais Steven, t'es bienvenu si t'arrives à arriver ici à 7h30.
Voilà. Voilà.
T'es bienvenu dans une prochaine
vidéo. Sinon, t'es pas le bienvenu.
Parce que bah, en gros, tu seras pas là.
Bah non.
Voilà. Voilà. Mathieu, Watch me manque, et toi?
Oui, c'est un vide parce que ça nous permettait de faire quelque chose de régulier en plus. Donc oui, merci, ça nous manque beaucoup. Mais écoute, c'est comme ça. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Et puis voilà.
Que retiens-tu de ton expérience justement, Andromag?
Alors, ce que je retiens, c'est un peu ce que fait Jérôme tous les jours, mais moi, je le faisais de manière donc toutes les deux semaines. À un moment, on a fait une version toutes les semaines. Oui, exactement. Petit joueur. Mais bon, pendant 4-5 ans quand même. Ce que je retiens notamment, c'est aussi ce qu'on a fait à Las Vegas, les 24 heures. Ça a été assez dingue.
Ça, c'était ouf. Ça.
Et ça a été ouf. Déjà, d'une, le CES accepte qu'on fasse. Et puis on en a bien chié parce que
oui.
L'équipe qui devait redonder avec nous s'est fait cambrioler. Du coup, ils n'ont pas pu nous venir. Ils nous ont aidé 2-3 heures, je crois. Ils nous ont soulagé 2-3 heures. Mais ouais, c'était intense. Et puis Andromag, ouais, ça a fait la grande fierté de ma mère. En dehors de pas me faire gagner du tout d'argent, ça a donné la grande fierté de ma mère qui envoyait mes émissions au Portugal. Il comprenait rien, mais oui, regarde. Mais
c'est peut-être une leçon aussi, hein, moi que j'ai appris aussi de Hardway avec No Watch. Mm. Quand il n'y a pas d'argent, ça peut se terminer du jour au lendemain.
Oui, après, honnêtement, j'en avais conscience. Tu sais que moi, je faisais mes émissions en me disant qu'il y a peut-être 3 personnes qui regardent.
Mm.
Mais c'est pas ça qui doit te motiver, entre guillemets. Et mine de rien, en dehors de Watch tout court et de Andromag tout court, nous, ça nous a apporté une petite crédibilité. C'est pour ça que la chaîne Restez Connectés, qui n'a seulement que 10 000 ou 11 000 abonnés, mine de rien, on arrive à se retrouver dans des événements comme ça et à faire des belles rencontres aussi, parce que Watch nous a permis de gagner une crédibilité. On n'était pas journaliste, mais on était la télé. Donc les marques, elles avaient quand même, disaient bon. Ouais, ils sont 3, mais on les invite quand même.
En tout cas, ça marche. Quentin, voilà. Mathieu, je vous connaissais pas, vous avez un nouvel abonné.
Ah, c'est génial. Merci,
ça, c'est cool. Je prends des questions au hasard hein, parce qu'on peut pas toutes les prendre. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de mon hashtag Stop Pub Caché? Est-ce que vous le mettriez sur votre chaîne?
Balance ton abonné.
Voilà, balance ton abonné.
Alors,
sachant que on va dire une réalité à la chatroom. Il faut le savoir, et c'est peut-être une des raisons pourquoi c'est délicat à mettre, il faut savoir que ça me fait un drop de view assez important.
Ah ouais?
Ouais, cet écran, et on le voit dans les courbes, des gens arrêtent la vidéo à cause de cet écran parce que c'est trop long à démarrer.
Il n'est pas corrompu.
C'est une latence, effectivement, au démarrage. C'est un truc que je prends, mais ça écorne un petit peu mes vues, en âme et conscience. Ouais.
Quoi, t'es pas corrompu? Je me barre.
Bim!
Non, mais je trouve que le principe est vachement intéressant. Enfin, clairement, il faut aujourd'hui. Si tu le fais pas de toute façon, en fait, tu te fais traiter par ta communauté. Les gens ils comprennent pas et tout ça. Moi, je mets pas j'utilise pas le hashtag, mais je mets de toute façon le petite indication.
Ouais, tu coches.
En bas, je coche les que c'est un truc commercial et je mets toujours en description si la vidéo est sponsorisée ou pas. Donc, je l'affiche pas sur l'écran, même si c'est en bas dans le petit carton. Ouais. Mais il n'y a pas le message.
Moi, je ressens encore la nécessité d'expliquer les subtilités des financements. C'est-à-dire, est-ce que le produit qu'on teste, c'est un échantillon? Est-ce qu'on... Un échantillon, c'est un produit donné. Est-ce qu'on nous l'a prêté? Pour moi, il y a une vraie différence entre une vidéo sponsor et un placement produit. Ce n'est pas la même chose techniquement. Et ce n'est pas la même implication vis-à-vis de la marque.
C'est sûr.
Donc, c'est des subtilités que pour l'instant, en tout cas, même dans un côté pédagogique, j'essaie d'expliquer. Mais je tombe aussi sur des situations qui ne sont pas simples à expliquer. Bien la sûr, télé LG qui était un échantillon, mais un échantillon qui vaut tellement cher, que j'ai décidé que c'était une vidéo sponsor, alors que techniquement, ils m'ont pas payé en argent sonnant et trébuchant pour faire leur pub, et que j'avais aucun brief, donc c'était pas non plus une vidéo sponsor. Donc, on essaye, en tout cas, d'être le plus clair possible, maintenant, en 10 ans dans nos vidéos. Je pense que les choses ont bien changé, même par rapport à l'époque où j'ai commencé à mettre...
Puis même, faut pas oublier que dans tous les cas, si on vous l'indique pas, c'est que c'est pas le cas en général, et les trois quarts du temps c'est pas le cas, et puis même si nous on vous ment, en fait c'est nous qui nous en prenons plein la gueule, hein. Très clairement, on va pas essayer de faire les farouches en vous cachant les choses, que ça nous retombe dessus en fait.
Je dirais que le problème c'est que maintenant les gens sont devenus peut-être un petit peu trop virulents, ils cherchent la petite bête,
totalement,
ils n'essayent même pas de comprendre les mécanismes économiques qu'il faut pour qu'une chaîne continue, et ils sont braqués placement produit, on sort un stylo où il y a un bout de logo dessus, t'as placé ce produit, tu ne m'en as pas dit et tout. Je dirais que c'est de bonne guerre.
Il y a un shift qui passe, mais t'es un peu encore dans l'époque où les gens pensent qu'on fait que ça avec passion. Et que tu dois pas dégager de revenus, et ils commencent à comprendre qu'il y a des chaînes, pour avoir les chaînes de la qualité de celle de Jérôme ou de Quentin, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent, parce que et puis sinon ils pourraient pas en faire tous les jours. Moi je suis l'exemple type, je suis l'hybride, puisque moi j'ai un autre travail à côté, et regardez, il suffit de regarder le nombre de vidéos que nous sortons comparé à mes deux collègues à côté. C'est clair qu'on peut pas suivre si y a pas du revenu qui est généré.
Très bonne question de Steven qui dit, il y a des marques que ça embête, j'imagine, de le dire aussi clairement, ou des agences. Ah oui, clairement, moi je me suis fait refuser de moins en moins, parce que maintenant elles ont compris qu'il fallait aussi être transparent côté marque. Mais au début où j'ai commencé à mettre ce truc, et je l'ai su que j'ai pas eu certaines OP à cause de cet écran.
Ouais, mais parce que les marques disaient non, je travaille pas avec toi parce que t'es à l'écran.
Bah en fait, on le sait, une pub cachée est hyper efficace.
Oui.
C'est hyper efficace. Oui, oui. Et
mais ils te le disent directement, parce que moi c'est
marrant. Non, je l'ai su après. Tu le sais toujours par. Je l'ai su que j'ai pas eu droit à certains budgets. Ils ont en gros attribué des budgets à d'autres testeurs tech, et moi je l'ai pas eu à cause de cet écran.
En fait, il faut pas vous imaginer que les marques des fois elles nous disent franchement les choses. Quand il y a des choses qui déplaisent, on l'apprend quand on commence à ne plus être invité nulle part.
Tiens, on a une question de Patrick Béja, mais dis donc, il y a tout le gratin ce matin.
Il s'est levé, Patrick.
Elle est où la question? Il s'est levé, ouais. Je veux pas voir sa tête. Patrick Béja, du coup, question liée. Quelle est votre motivation principale en dehors de l'argent?
La passion.
The fame, les femmes.
Oh ouais, j'adore ça. J'adore me faire reconnaître au supermarché, hein, quand je sors avec mes courses.
Moi par exemple, c'est très clairement pas l'argent, parce que la chaîne me coûte plus que ce qu'elle ne me rapporte. Moi c'est l'expérience humaine en fait. Ça fait cliché de dire ça.
Mais c'est vrai.
Mais je vais être honnête, hein, regardez la chance que j'ai. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que faire le mug, c'était dans ma wishlist, tu vois. Aujourd'hui, j'ai réalisé un truc de ma wishlist.
Dans ta bucket list.
Voilà, et moi, je suis très conscient que ma chaîne, aujourd'hui, elle est là, mais que demain, tout peut s'arrêter, et que j'emporterai avec moi des souvenirs, et puis de m'être fait des amis que j'espère garder après, même si je suis plus dans la sphère de la vidéo.
Le vent emportera.
Mais voilà, honnêtement, c'est ça, parce que sincèrement, si vous pouviez mettre le nez dans ma chaîne, vous verrez que il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors oui, on va pas vous cacher que au début, avoir des téléphones quand on démarre, ça fait extrêmement plaisir.
Mais
quand ils nous lâchent un échantillon d'un produit, ça nous fait extrêmement plaisir. On va pas se le cacher. En tout cas, c'est mon côté, c'est un peu comme ça. Mais honnêtement, quand ça fait tellement d'années, moi ça fait depuis mine de rien 2013 que je fais ça. Pas spécifiquement sur Rester Connecté, j'y vadrouille à droite et à gauche. Mais au bout d'un moment, juste recevoir des produits. Par exemple, là aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de saturation où j'ai en plus envie d'orienter ma chaîne sur des choses qui ressembleraient un peu au mug, où on discute sur des sujets de fond, pas forcément de faire des news, mais quelques sujets de fond, comme j'ai fait sur ma dernière vidéo de la chaîne où je parle de la VR pour ressusciter les morts avec le fameux documentaire.
J'ai pas regardé, je vais être honnête.
Mais tu vois le documentaire je sais que tu as couvert le sujet aussi.
Ouais.
Le documentaire qu'il y a eu en Corée, ça là j'ai envie de ça en ce moment. Et j'ai là honnêtement, j'ai pas envie de tester des trucs. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est quand on est à mon niveau, pas dans l'heure. Peut-être que ça évoluera si un jour j'atteins leur palier, mais très clairement, c'est les rencontres, c'est les soirées, elles sont quand même vachement sympas. Et voilà, d'être avec les, finir avec les copains dans un McDo après avoir fait une soirée chez Samsung, eh ben c'est rigolo, c'était cool. J'ai emmené les œufs au tacos la dernière fois, voilà, on s'est bien marré.
Non, mais moi je dirais que j'ai évidemment commencé par la passion et j'ai toujours eu cette obsession depuis gamin de je voulais une chaîne.
Bien
moi
sûr.
One's World. J'ai vu One's World et ça m'obsède depuis que je suis
Normal.
gamin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas, on va dire chez les techs de YouTube, je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que bien évidemment, on va se tirer dans les pattes, il y aura la concurrence, l'argent va tout
Totalement.
corrompre, etc.
J'entends même Brandon qui dit, je sais pas, il y en a un qui a dit, ouais, il y a les jeunes qui arrivent. Non, c'est JB qui m'a dit ça. JB, tu vois, moi, JB, je l'ai connu tout jeune, tu vois.
Bah
Et là, il me dit, il y a les jeunes
oui.
qui
Là,
arrivent.
vous commencez à avoir peur. Mais vous voyez ce que je vis tous les jours, moi.
Ah
Le
ouais,
jour où je vais
d'accord.
entendre Quentin dire,
Ouais,
putain, il y a des
putain,
petits nouveaux là,
ouais.
ils
Ah,
battent les
c'est bon,
couilles,
ils ont les
hein.
dents longues.
Ils n'ont pas la même déontologie que nous quand même. Hein. Les voir se transformer en boomer, ça va être très drôle. Si je suis encore là. Mais c'est vrai que j'aime bien, c'est très intéressant de voir ce monde se construire, avec ses maladresses aussi, hein, on va le dire.
Totalement.
Le rapport avec les marques est un truc fascinant à regarder en
Oui.
ce moment parce que on est en train de se moraliser. On s'aperçoit que des marques se sont foutues de notre gueule aussi ou abusent de l'effet influenceur ou du smartphone donné qui vaut pas grand-chose, soyons honnêtes.
Totalement.
Le
Ben
prix de
oui.
revient d'un smartphone, et puis c'est pas avec ça que tu payes ton loyer. Bref. Tout ça, sans dire qu'on est en train de se syndiquer, on commence vachement plus à discuter là depuis 2 ans qu'on ne le faisait
Exactement.
avant où chacun avait sa petite chaîne de son côté. Donc c'est intéressant.
Et puis moi, regardez, tu vois, parce que j'ai un œil un peu encore extérieur par rapport à vous, mais moi, regarder des mecs comme Jérôme Quentin et JB et d'autres faire prospérer un truc qui n'était pas un métier avant, c'est ouf, quoi.
Ouais,
C'est intéressant, en fait.
c'est une aventure
Franchement,
entrepreneuriale,
ça se trouve, un
hein.
jour,
Ah ben
j'écrirai un
clairement.
livre là-dessus, tu vois, j'en suis là, tu vois,
Bah dans tous les
c'est
cas, faut
cool.
pas croire que le rêve YouTube c'est un truc où c'est facile. On en parlait dans la voiture tout à l'heure, où en mode la vidéo elle arrive comme ça et c'est déjà
Oui.
fait. Non, non, c'est énormément de taf malgré tout, mais ça vous
Les
devez
gens de ta
savoir. Hein.
famille qui disent, tiens, encore un nouveau téléphone, et qu'ils ont l'impression que, en fait, les marques, elles viennent, tiens, prends le téléphone, vas-y, prends. Non, bah, on fait des vidéos, on cravache dur, et voilà,
C'est
c'est
ça. Bon
pas évident.
après, bien évidemment, on n'est pas à plaindre.
Non,
On
bien sûr,
travaille
pas.
dans
Bien
quelque
sûr.
chose qui nous
C'est
passionne.
ça.
On va le dire, par rapport au temps de travail, le revenu monétaire, en tout cas les premières années, n'est pas équivalent au temps de travail, mais est compensé par de faire quelque chose de passionnant.
De toute
C'est ça.
façon, ça vaut pour tous les métiers, hein.
Ah,
Du moment que tu fais un truc
ouais.
qui te passionne, voilà, tu vas te tuer un
Moi,
peu à la tâche naturellement, quoi.
j'ai des époques dans mes carrières précédentes où je faisais des trucs qui m'intéressaient pas du tout, mais
Voilà.
qu'est-ce que je ramassais comme kayak? Pour moi, ça a toujours été proportionnel. Si tu me fais faire un truc chiant, tu vas le payer cher. Mais plus c'est passionnant, moins je te fais payer. Mais tu sais que je suis pareil avec les sponsors, hein. Si tu me fais une vidéo sponsor qui me pète les couilles, oh putain, tu vas. Et
Tu
même,
vas raquer, tu vas raquer. Attention.
je fais des prix où je me dis, il va jamais accepter ça. Et là, t'es dans la merde
Ah
quand
ouais,
ils
vraiment, quand ça
acceptent.
arrive, finalement.
Bon, on refera ça, les gars. Vous êtes
Yes.
toujours les bienvenus. Merci
Merci.
beaucoup
Avec grand
d'être venus.
plaisir.
C'était super cool. On va
Merci.
dire nouvelle formule. Hein. Dites-nous dans la chatroom et dans les commentaires de ceux qui écoutent en replay si la formule vous plaît d'avoir des invités où on
Voilà,
change un
voilà.
peu on casse un peu la structure de l'émission. À trois, c'est peut-être pas facile, mais
Non,
c'était cool
mais
quand
c'était
même.
cool.
On
L'occasion.
débarque et on casse le format.
Voilà, on casse le format exactement.
Merci en tout cas, Jérôme, de m'avoir invité.
T'as Samuel, il est fou là.
Ah
Il
ouais, il
me
dit
met des
arrêtez
messages.
les mecs,
Coupez le live, il est
coupez.
9h16. Mayday, Mayday, nous partons en
Mais
flammes.
en tout cas, merci de m'avoir donné le plaisir
Tu
de
m'as
faire
pas
un
donné le
mug.
choix. Hein.
Oui, c'est vrai. J'étais
Ouais.
un peu braqué, mais
Hier, tu m'as dit j'arrive.
J'arrive. Je débarque, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci, ça m'a fait vraiment plaisir de faire une émission que je regarde tout le temps. J'avais fait un Texcope et j'ai fait un mug, donc c'est très, je suis très content.
Voilà, ta bucket list.
Magnifique.
Hein.
Ouais, c'est
J'espère
parfait,
qu'il
ça.
n'y a rien de sexuel sur ta bucket list avec moi. Que ça s'arrête là.
Bon, on va couper le live, je
J'ai
pense.
fait le Texcope, j'ai fait le mug, je me suis fait Jérôme.
Jérôme!
Bon, bah,
Merci
en tout
à
cas,
tout ce
merci à
monde.
toute la communauté. Hein. Gros
Merci d'avoir
bisous.
suivi ce live un peu long.
Yes.
Désolé pour vos patrons et le retard que ça va occasionner. Portez-vous bien, soyez forts, passez un très bon week-end et on se retrouve lundi pour un
Tchou.
nouveau mug.
Bye bye.
Tchou, tchou, tchou,
Ciao.
tout le monde. Ciao, ciao.
Bise.